Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Ciné Brunch, l'émission qui n'a pas peur de partager son popcorn et de dire que le popcorn, c'est vulgaire à l'occasion. Je suis Louis Laramé, je suis accompagné comme toujours de mes co-animateurs Jim Boulay et Mélina Lopez-Nado.
Bonjour!
Comment allez-vous, chers co-animateurs, actrices?
Ça va super bien.
Ça va très bien, Louis.
Excellent. Jim, qu'est-ce que tu as à me dire cette semaine de le fun?
Écoute, ben, je sais que l'été tire à sa fin, qu'on va en fait parler même de nos films d'automne un peu plus tard, mais j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui est assez loin de cette réalité-là, mais qui a un lien quand même avec cette réalité-là, c'est-à-dire la date de sortie d'un nouveau film. Et pour ça, j'ai une bande-annonce.
Oh!
Where I come from? Everyone is welcome. Regardless of nationality. And if I was prime minister, that's what I'd stand for.
We have breaking news. A large explosion has gone off in the center of the city.
We will suspend activities until we get some more information, okay?
I'm from Oslo PD. You heard about the bomb in the city?
Yes.
I've been sent to secure the island. Actually, can I see your ID?
Yeah, sure.
Donc, vous avez entendu Oslo PD. Ça sonne pas tout à fait comme NYPD ou LAPD, mais dans tous les cas, vous aurez constaté que c'est un film qui va se passer en Norvège. Et ça va faire plaisir à Louis parce que, en fait, vous vous souvenez quand je vous parlais de la hausse de popularité des séries et des films qui prennent pour thème des sujets de pays nordiques, entre autres la série norvégienne Occupied, qui est disponible sur Netflix.
Oui, j'avais également mentionné The Killing à ce moment-là.
Oui, il y en a plein, en fait, en ce moment. Eh bien, on reste vraiment dans le thème de Norvège avec ce film-là. En fait, l'extrait que vous venez d'entendre, c'est un extrait de la bande-annonce du nouveau film de Paul Greengrass, qui a réalisé la plupart des films Bourne et pas mal d'autres affaires, dont Captain Phillips, qui a gagné, je pense, quelques prix, et Vol 93, Vol 93 en français. Flight 93.
Je suis fasciné.
Ouais. Et donc, le film s'appelle 22 July et fait référence aux attentats terroristes de 2011 en Norvège. Le film est donc écrit et réalisé par Paul Greengrass et va être disponible sur Netflix. Oui, sur Netflix. Donc, c'est une production pour Netflix dans moins d'un mois, donc le 10 octobre. Alors, voilà, juste à temps pour le mois d'octobre.
Cool. Là, je suis vraiment déçu parce que moi aussi, en fait, je voulais parler d'un film qui s'en vient, mais il s'en vient un peu plus tard. Il s'en vient pour la saison des fêtes. Le premier,
beaucoup plus tard.
Le premier trailer vient de sortir, en fait, et c'est pour ça que je voulais en parler. C'est Anna and the Apocalypse. Anna et l'Apocalypse, qui se trouve à être une idée qui avait été écrite par un jeune directeur écossais, Ryan McHenry, qui est malheureusement décédé, qui est maintenant pris en charge par un de ses très bons amis, John McPhail, qui voit une jeune fille adolescente chanter et danser sa vie au travers les problèmes d'une adolescente typique dans une école, des relations amoureuses, des relations d'amitié, ainsi qu'une invasion de zombies.
Un film d'ado avec zombies.
Ouais, ça, c'est comme High School, The Musical et les zombies.
Wow!
Je recommande fortement d'aller voir la bande-annonce. Avoir su, j'aurais moi aussi amené mes extraits pis tout. J'aurais flashé comme notre ami Jim. Mais vraiment, j'ai hâte à Noël pour la première fois depuis vraiment longtemps.
Ben écoute, je suis content.
Je suis pas sûr du mix, mais bon, on va donner la chance aux coureurs.
Ben ça aurait été mieux pour l'Halloween, hein?
Non, parce que ça se passe juste au début de la saison de Noël.
Ah, d'accord.
Il y a vraiment une magnifique scène avec une canne de bonbons géants qui est extraordinaire, mais je vais vous laisser aller le voir dans la bande-annonce.
Bon, merci Louis.
Mélina, qu'est-ce que tu as à nous amener cette semaine?
Mais moi, je vous avais parlé cet été, au mois d'août, de la série Insatiable qui sortait sur Netflix, qui avait déjà suscité la polémique avant sa sortie. Donc la série avec Debbie Ryan. J'ai décidé d'y donner une chance cet été Et c'est absolument affreux comme série, honnêtement. C'est vraiment, c'est pas écoutable. Non seulement c'est bourré de clichés et tout ce qui était dit dans les pétitions concernant la grossophobie, c'est justifié, mais en plus, on a des actrices qui ne savent pas jouer. J'avais l'impression de regarder une parodie de quelque chose, j'ai trouvé ça. J'ai même pas fini le premier épisode. Donc, en plus d'endosser la pétition, je demande aussi que, quand même, je pense que Debbie Ryan peut être une bonne actrice, mais dans ça, elle nous montre juste à quel point elle n'est pas toujours une bonne actrice. Et non, c'était vraiment rempli de clichés, mais c'était vraiment juste pas crédible. Et voilà, donc j'ai vraiment pas apprécié. Donc, je ne le recommande pas.
Avec une force dure à imaginer.
Voilà.
Merci beaucoup, Mélina. Donc aujourd'hui, on va se parler d'une couple d'affaires. Là. Mélina a été voir un film de bonbons. Moi, j'ai été voir un film de scientifique. Puis Jim a été voir un film tragique.
Un film de grève, oui.
Bref, on a également un top 3 de nos films d'automne favoris. Mais pour commencer, Mélina a été voir un film de bonbons.
J'ai été voir, oui, un film qui parle de la menthe et du poivre.
La menthe poivrée, en fait.
La menthe poivrée, en fait.
La menthe poivrée. Oui. Non, mais c'est important d'en parler, de cette menthe poivrée, qui est si différente de la menthe fraîche ou de...
La menthe douce.
La menthe que ma tante met dans ses remèdes qui goûtent le sein, s'il vous plaît.
Ou dans ton cas, la crème de menthe.
Pour à l'occasion, je veux dire, un délicieux marteau comme ça, qui est un mélange, une part vodka, une part crème de menthe. Rentre admirablement bien le vendredi soir.
Et non pas à l'heure du brunch.
Par contre, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, nous vous rappelons que de boire prudemment.
Voilà.
Donc, Mélina, Peppermint.
Peppermint, oui. Titre qui prend seulement son sens dans la version anglaise, puisque le titre français est Déchaîné. Le titre du film, c'est Déchaîné. Donc, c'est un film d'action. C'est avec Jennifer Garner et c'est réalisé par Pierre Morel, qui est un réalisateur français. Et Jennifer Garner interprète le rôle de Riley, une mère de famille, qui voit son mari et sa petite-fille se faire tuer lors d'une fusillade. On apprend donc rapidement que la fusillade était commandée par un gang de rue. Et comme le système de justice, évidemment, est corrompu, Riley n'obtient aucune justice et les coupables sont relâchés. Elle va donc disparaître dans la brume pendant 5 ans et donc elle va revenir ensuite à Los Angeles pour se faire justice elle-même. On va se dire, la prémisse du film m'a beaucoup fait penser au film Death Wish, le film que Louis avait critiqué un peu plus tôt dans l'année. Le film, le titre français était un justicier dans la ville.
Ça, c'était avec
Bruce Willis.
Bruce Willis, oui, c'est ça.
Donc, c'était absolument pas regardable.
Ouais. C'est vrai que tu n'avais pas aimé le film. Et c'est vraiment similaire dans le sens que c'est un film de vengeance, sauf que dans le cas du film Peppermint, Déchaîné que j'ai vu, le personnage qui survit et qui a soif de vengeance est la mère plutôt que le père. Donc, on va aller tout de suite écouter la bande-annonce.
Madame North, toutes mes condoléances.
Ces cartels ne plaisantent pas. Ils ont tout le monde dans la poche.
Il y a 5 ans, Riley North a disparu de la circulation. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que sa famille a été assassinée. Elle est de retour. Les juges corrompus. Les flics pourris. Ce que je veux... que justice soit rendue.
Trouvez-la, j'en ai rien à foutre, même si vous devez brûler la ville entière pour ça.
Lorsqu'on vous enlève ce qui compte à vos yeux, vous devenez une autre personne.
Juste avec la bande-annonce, on a déjà l'impression que le personnage a une motivation, une raison de faire ce qu'elle fait, puis c'est pas un stéréotype blanc d'Amy Lee Gunn. Déjà, beaucoup de points supérieurs à un justicier dans la ville.
Oui, je pense que oui, Louis. C'est très drôle parce qu'en fait, vous savez, à Cinébrunch, on vous met seulement des extraits de la bande-annonce. Mais moi, j'étais au cinéma la semaine dernière avec 2 amis. Et lorsque la bande-annonce a joué, la première fois qu'on la voyait, on nous présente la famille, la fille. On dirait vraiment, c'est vraiment cute. On dirait vraiment pas un film d'action. Ça a l'air vraiment d'une comédie romantique. Et donc là, les deux gars avec lesquels je suis disent clairement qu'ils iront jamais voir ce film-là.
Et là, soudainement.
Exactement, soudainement, qu'est-ce qui se passe? Le drame, l'action embarque, le ton de la bande-annonce change complètement. Et donc, évidemment, c'est donc avec ces deux gars-là que je suis allé voir le film.
Incroyable!
Pour être honnête, pour avoir également vu la bande-annonce dans un contexte similaire avec une amie qui avait aucune idée c'était quoi, j'avais aucune idée c'était quoi, la bande-annonce commence et j'étais vraiment perplexe. Ouais. J'ai fait « Ouais! » Écoute, alors, voyons voir où ça nous mène. Et là, justement, comme on la voit revenir de l'entraînement au bout de 5 ans, puis j'étais un peu au bout de mon siège.
Oui, oui.
C'est tellement... C'est ça. Puis quand ça commence, en plus, Jennifer Aniston...
Jennifer Garner
ressemble beaucoup trop à Julia Roberts dans la vie. Et le fait de l'avoir dans un film comme ça, ça vient vraiment briser cette espèce de ressemblance-là. Je trouve que c'est très intéressant pour avoir vu le film aussi à ce niveau-là.
Mais parlons-en de Jennifer Garner, parce que moi, je la connais surtout pour l'avoir vue dans des comédies romantiques. Mais en fait, en faisant mes recherches, j'ai appris que le rôle qui l'a fait connaître est celui d'une agente de la CIA dans une série dans la série d'espionnage Alias, qui avait été créée par J.J. Abrams. Donc, un type de rôle qui n'est pas si loin de celui qu'elle interprète dans le film Déchaîné. Donc, moi, je l'avais connue plutôt dans 13 ans, bientôt 30. Donc, la fille qui se retrouve dans le corps d'une adulte de 30 ans. Film typique où on change d'âge, mais on reste nous-mêmes avec notre conscience. Et dans d'autres comédies romantiques. Mais je n'avais pas conscience de ce background-là qu'elle avait lorsque j'ai vu le film. Et j'ai vraiment été impressionnée. J'ai trouvé vraiment excellente. Les autres acteurs aussi, ils sont bons, mais vraiment, c'est vraiment elle, je pense, qui est vraiment le ce qui vaut le coup dans ce film-là. C'est vraiment Jennifer Garner. Elle vole vraiment la vedette à tous les autres personnages. Donc, c'est ça pour Jennifer Garner.
Moi, tristement, tu vois, je la connaissais aussi pour un rôle qui ne me l'avait pas préparé à ça. Je la connaissais pour son rôle d'Electra Nachos dans Daredevil, la version 2003 avec...
Le film?
Oh yeah!
Oh boy.
Avec Ben Affleck.
Oui. C'était elle qui lui rendait la réplique. Il y a des scènes majestueuses, mais je pense que leur première rencontre où ils se battent dans le parc, où est-ce qu'elle se fait tenir tête par un homme aveugle alors qu'elle utilise des techniques de combat avancées, puis à la fin, elle est comme « Ah, fait que tu sais te battre. » C'était honnêtement un de ces moments du cinéma où tu te demandes
« Pourquoi t'es là? »
Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce qu'on est rendu là, puis personne m'en a parlé?
Fait intéressant, j'ai appris qu'elle était mariée avec Ben Affleck et qu'ils avaient eu 3 enfants ensemble et qu'ils venaient juste de finaliser leur divorce. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle avait pris un peu du recul face au nombre de films qu'elle faisait, parce que 3 enfants, c'est quand même 3 grossesses, donc ça prend un peu du temps.
Puis gérer 3 enfants aussi.
Oui, puis Ben Affleck, il manquait de vision, il était tanné de se chamailler avec. Bon, je comprends, moi.
Puis après, la vision de... le mime qui a animé les internets l'année dernière lors de la campagne de publicité de Justice League, où on voit Sad Affleck, c'est-à-dire Ben Affleck, qui se tient la tête un peu triste que son film soit aussi mauvais. Moi aussi, j'aurais des questions à savoir. Est-ce que mon homme, c'est l'alpha dans la pièce?
Bon, revenons donc au film Déchaîné, Peppermint en anglais. Au niveau du scénario, je vous dirais que c'était bien. Même si j'aurais bien aimé avoir certaines précisions, je trouvais que certains détails manquaient au scénario. Mais c'était bien, la réalisation était bonne, le style de montage assez intéressant. Une bonne intégration, je trouvais, de la couverture médiatique de l'histoire. Mais au niveau des scènes de combat, ça m'a plu, mais écoutez, je suis pas une experte là-dedans, je suis pas Louis. J'ai pas vu plein de scènes de combat, donc je sais pas à quel point c'était réaliste ou pas.
Mais est-ce que tu as eu du plaisir?
J'ai vécu des émotions.
OK. C'est correct.
Je pense que oui.
Mais après ça, rentrer dans la technicalité de la scène de combat, je risque d'aller le voir cette semaine. Donc, j'en ferai peut-être une intro pour la semaine prochaine, mais c'est ça. Je pense pas que ce soit si terrible que ça. Jennifer Garner, malgré le rôle un peu détestable d'Electra, elle a fait aussi, j'ai vu un film solo d'Electra en 2005. Les scènes de combat sont intéressantes parce qu'elle fait une partie des cascades elle-même.
OK, carrément. En tout cas, pour avoir vu, j'ai vu des vidéos de son entraînement qu'elle a fait en préparation à ce film-là, parce qu'on se le dit, quand elle revient 5 ans plus tard, elle est extrêmement musclée. Moi, je la trouve, c'est ça, extrêmement musclée. J'ai vu une vidéo d'un extrait de l'entraînement qu'elle fait et c'est vraiment très intense. On voit qu'elle a vraiment mis tout son corps pour se préparer à ce rôle. C'est vraiment intéressant.
Ça lui donne une shape intéressante.
Vraiment, définitivement. Et pour venir, il y a vraiment une question morale qui est intéressante à aborder au sujet de ce film-là. parce qu'on nous montre durant le film plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui se prononcent en faveur des actes que Riley a commis, vu que le système de justice l'a laissé tomber. Et moi, je pense que ça peut induire une réflexion chez le spectateur. Est-ce que c'était vraiment légitime pour Riley de se faire justice soi-même? Donc, je pense qu'on peut se questionner à ce niveau-là. J'aime pas un peu comment c'est comment le film approche ça, mais je pense que ça peut susciter des réflexions à ce niveau-là, puis ça rentre quand même dans des questions, je trouve, assez intéressantes. Dans tous les cas, c'est un film qui nous fait vivre des émotions assez fortes. Donc, pour tout ça, je donne au film Déchaîné la note de 7,5 sur 10. C'est pas nécessairement un film que je reverrai, mais si ma critique vous parle aujourd'hui, je vous le conseille, c'est un bon divertissement.
Excellent. Oui. Merci beaucoup, Bélina.
Merci.
Hey, moi aussi, j'ai été voir un film cette semaine.
Non.
Ouais. Puis, j'ai été voir un film qui aurait pu être de nature scientifique, parce qu'il s'appelle Recherche.
Oh oui.
En version originale, ça s'appelait Searching, qui est... Là, je vais mettre la bande-annonce en commençant, puis je vais expliquer après ça le contexte du film.
Okay.
C'est à ce moment-ci, ouais. C'est aujourd'hui qu'on va voir les limites de l'usage de bandes audio seulement pour la bande-annonce. Je vous explique dans un instant.
J'appelle pour signaler une disparition.
De qui s'agit-il?
De ma fille.
Je suis la détective responsable de votre dossier. Je dois reconstituer le fil des événements.
Je comprends.
Je pense que je vais en avoir pour toute la soirée.
1. Margot n'est pas rentrée à la maison après une séance d'études.
Son école Ever Creek indique que Margot est absente aujourd'hui.
2. Elle n'était pas à l'école vendredi.
Ma fille suit un cours avec vous en ce moment, vrai?
Margot n'est plus inscrite depuis 6 mois. Et 3, elle transfère des sommes d'argent depuis 6 mois. Nous enquêtons sur le terrain, mais en tant que parents, vous pouvez nous aider en nous indiquant avec qui votre fille est en contact, ses amis. Vous pouvez faire ça?
Oui.
Ouais, c'est vrai que c'est très visuel. Hein,
c'est ça. C'est que malheureusement, ce que vous, auditeurs, auditrices, allez manquer sur nos téléspectateurs, téléspectatrices, c'est que toute la bande-annonce se passe dans l'écran d'un ordinateur. C'est pour ça d'ailleurs que les sons d'un Mac sont aussi proéminents. Mm-hmm. C'est que vraiment, il y a beaucoup d'usages de FaceTime, il y a beaucoup d'usages de caméra, il y a l'usage de plusieurs artifices pour qu'on soit capable de voir le personnage. D'ailleurs, c'est John Cho qui occupe le rôle principal de David Kim.
Ouais.
C'est ça. John Cho, qu'on avait connu il y a quelques années, entre autres, pour son rôle de Sulu dans les Star Trek, mais également comme étant Harold dans Harold et Kumar. Donc, une palette intéressante pour un acteur. Pour un acteur qui n'est pas tant connu que ça, mais vraiment intéressant à voir aller. Avant d'aller plus loin, j'ai une confession à faire, mesdames, messieurs. J'ai un faible vraiment intense pour les suspens policiers. Autant en termes de littérature, de télévision que de cinéma, pour moi, une bonne enquête policière, c'est extraordinaire. La seule raison pourquoi j'ai jamais commencé la série CSI, c'est que c'est un peu trop cheap. Par contre, The Wire, The Soprano, Omerta, sont des séries que j'ai pu adorer avec un plaisir mal dissimulé. Et là, dans Searching, moi, je suis rentré là, j'étais sous l'impression que c'était un film d'horreur. J'aurais dû m'allumer. C'était vraiment un suspense policier extraordinaire. Après la disparition mystérieuse de la fille de 16 ans de David Kim, une enquête est ouverte auprès des autorités. Le détective chargé de l'enquête croit à une fugue, mais 37 heures plus tard, David n'a toujours aucune nouvelle de son enfant. Il décide donc de fouiller le seul endroit que personne n'a encore sondé, l'ordinateur portable de sa fille. Le père inquiet épluche méticuleusement toutes les données contenues sur l'appareil électronique et étudie les traces que son adolescente a pu laisser sur les réseaux sociaux. Plus il avance dans son enquête, plus il constate qu'il ne connaissait pas sa fille autant qu'il le croyait. Donc, ce que c'est un père qui décide de faire enquête lui-même. C'est lui qui, au travers des traces que l'on laisse tous en ligne, de retrouver comment sa fille a pu se rendre où elle est. C'est-à-dire qu'au travers de l'usage de médias sociaux, des outils de contact, de calendrier, d'un paquet de trucs comme ça, à un certain point, il y a du streaming qui est mis en jeu, il y a son Tumblr, parce que évidemment qu'on est à l'ère Tumblr de nos jours, qui lui permet tranquillement, pas vite, de se faire une image de qui est sa fille, qui elle était vraiment, qu'est-ce qui est arrivé. Le film commence... Moi, j'étais également incertain de la prémisse. Dans les 10 premières minutes, j'étais au bord des larmes sur comment est-ce que la situation familiale est expliquée. Et le tout sur un écran d'ordinateur. On commence sur un Windows 7 un peu décevant.
Windows XP.
C'est XP? Ah ouais. Oui, c'est vrai, les collines en arrière. Donc, tu sais, c'est pas la grosse affaire, mais plus on avance, plus évidemment les changements technologiques. Quand on passe au Mac, on voit déjà plus la caméra parce que FaceTime est utilisé de manière plus extensive. Mais vraiment, on voit le travail d'un père qui se doit de se débattre contre la réalité, contre un peu qu'est-ce qui a pu arriver, puis qui, sans le savoir, à mon humble avis, trouve vraiment c'est quoi être une personne dans la vingtaine aujourd'hui. C'est-à-dire que il est révolu le temps où la plupart de notre race était physique. Je pense que parmi ma génération, j'ai présentement la fin vingtaine, des notes papier, ça se prend à peu près plus. Un calendrier écrit, c'est de plus en plus rare. Mais c'est vraiment tous ces contacts en ligne, tous ces semi-inconnus, pseudonymus avec qui on interagit au jour le jour, avec qui vraiment on met notre vie et on crée notre existence. Fait que c'est de voir le clash entre les techniques policières plus traditionnelles et ce que le père utilise dans le fond pour retrouver les traces de sa fille. Peut-être certains trucs qui étaient un peu décevants ou un peu moins bien expliqués. Je pense que le rôle de l'oncle, en fait, le frère David, était un peu...
Il y a un twist plot avec cette histoire-là là, dans le film, mais
on ne peut pas révéler. Mais... Non, c'est ça, on ne révélera rien. Mais moi, je trouve qu'il était un peu mal expliqué d'où est-ce qu'il arrivait, qui était... Son amour immodéré pour le hockey était un peu tannant.
Il n'y avait pas vraiment de backstory du
personnage. Non, mais en fait, ça m'a pris comme un bon 5 minutes d'allumer c'était qui.
Oui.
Qu'il y avait pour la première fois sur l'écran.
C'est vrai que ça n'a pas été expliqué très vite. Là.
Non, c'est ça. C'est un peu limitant. Mais quand même, un film très intéressant, une enquête policière qui était vraiment intéressante. Effectivement, Jim l'a mentionné, je ne voulais pas le faire, mais quelques twists vraiment intéressants dans l'histoire. Du début à la fin, j'étais laissé sur le bout de ma chaise. Quoique, les gens avertis pourront identifier au moins deux indices qui, très rapidement dans le film, nous indiquent où ça s'en va, mais par souci de vous laisser le plaisir de le découvrir vous-même, je vous le dirai pas.
Mais le gros point, je sais pas, j'ai pas l'impression que t'en as parlé encore, mais le gros point qui m'a vraiment marqué de ce film-là, c'est son traitement, parce que tout est vu sur un écran. On ne voit jamais, il n'y a jamais de caméra real action, là, comme on appelle. C'est toujours vu par le FaceTime, Skype, les réseaux sociaux directement. C'est cool, ça. Moi, ça m'a vraiment impressionné.
C'était vraiment bien fait.
Parce que c'était bien fait. Ça aurait été facile de se tromper en faisant ça.
Moi, j'avais été branché un peu de temps avant d'aller voir le film, parce que ciné-branche, puis après ça, je vais voir un film. Puis, quand j'ai identifié comment ça allait se passer, les gens autour de moi ont fait « Mais ça va probablement être plate, ça sera pas très bon. » Surtout que, donnez-moi une seconde, Anesh Chaganti, c'était son début directorial. Avant, il faisait partie de l'équipe créative de Google et il écrivait des annonces.
Fait qu'il était quand même un peu dans le milieu, là.
Il était dans le milieu, mais c'est ça, c'était son début directorial. Là. Il avait pas rien fait avant, il avait pas, du moins, de long métrage. Puis il y a un truc qui se passe uniquement sur un écran, pas rien de la vie réelle. Beaucoup de doutes et de scepticisme ont été émis autour de la table. Moi, je me suis dit que le pire qui puisse arriver, c'est que je scrape 1h45. Pour nos auditeurs auditrices, je l'ai déjà fait, même plus longtemps que ça. J'aime vraiment pas un justicier dans la ville. ou trip à 3. Mais donc, ça valait vraiment la peine. Je sais pas si c'est quelque chose qui va pouvoir être refait souvent. Je sais pas si la nouveauté va pas un peu s'effacer, mais en même temps, c'est vraiment une bonne manière de gérer justement l'interconnectivité de toutes nos relations aujourd'hui.
Oui, ben comme tu dis, je sais pas si ça va se refaire plus souvent, mais c'est une belle réussite.
Très original.
Tu lui donnes combien?
8.5. Oh,
oui. 8.5,
c'est parce que comme je dis... Un peu court, ça reste juste une enquête policière. C'est une excellente enquête policière, mais il n'y a pas... Justement, c'est intéressant, puis en même temps, c'est limitant. C'est-à-dire qu'il utilise une forme qui est complètement nouvelle, mais pour faire une histoire très, très classique.
Ouais.
Fait qu'il n'y aurait pas, ouais. Il y a pas eu d'exploration à ce niveau-là. Oui, c'est bien fait. Oui, mais c'est ça. Donc, 8.5, ça reste excellent. Je le recommande chaudement. C'est ça. Mais je pense pas que c'est une méthode de fonctionner qui va révolutionner le cinéma. Par contre, ça peut donner une idée intéressante de comment gérer l'éternel problème des films et des séries télé, c'est-à-dire les textos et les courriels.
Oui.
J'aime encore la version qui a été prise par Sherlock, la série de Netflix avec Benedict Cumberbatch. On voit juste apparaître le petit truc au-dessus du cellulaire dans les airs, mais ça brise un peu l'immersion.
Mm-hmm. Ouais.
Donc, c'était ça.
Ben, merci Louis.
Merci Louis. Bienvenue.
Dans cette deuxième moitié d'épisode, on va se parler de nos top 3 de nos films d'automne. J'ai également une twist sur ma formule habituelle des sorties. Mais d'abord et avant tout, Jamie Boy va nous parler de En guerre.
Oui, qui n'est pourtant pas un film de guerre. Enfin, pas au sens propre.
Au sens sale?
Oui, quasiment, en fait. Quasiment. Un drame, donc, français, coécrit et réalisé par Stéphane Brisé, et mettant en vedette Vincent Lindon, qu'on a vu quelques fois, et Mélanie Royer. Vincent Lindon, qui, d'ailleurs, a joué dans la plupart des films de Stéphane Brisé. Et c'est vraiment un film réalité, ce film-là, En guerre, qu'on pourrait considérer comme ce qu'on appelle un drame social. Je dirais que c'est même plus précisément un drame de grève, on écoute la bande-annonce.
On ne demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole.
Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock.
Ouais, voilà.
Écoutez, non, mais c'est sans appel.
La justice, aujourd'hui, est là pour dire non à la fermeture de l'entreprise.
Dans la Constitution est inscrite la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre veut dire qu'un patron peut ouvrir et fermer une entreprise.
Une entreprise qui a fait 17 millions d'euros de bénéfices.
Ça veut dire quand on a un PDG qui a dit à un ministre « Allez vous faire foutre, moi je fais ce que je veux. »
Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés?
On sent personne dehors! C'est des familles entières, des enfants, des pères, des mères! Allez où la parole?
Donc, quand même beaucoup d'intensité dans cette bande-annonce. On n'est pas en guerre, mais presque, hein, avec ça, on pourrait dire.
Je pense que c'est une idée très européenne de la guerre des classes.
Oui, ben en tout cas, entre le patronat et les travailleurs dans ce cas-ci. L'histoire se déroule donc dans les coulisses d'un conflit important entre les travailleurs syndiqués d'une usine et les dirigeants de cette usine-là, qui est dans une petite municipalité française. Et après une période assez difficile, les employés qui avaient accepté, eux, de travailler, donc plusieurs heures supplémentaires par mois, sans salaire, pour aider à conserver leur emploi, malheureusement, le groupe d'affaires qui possède, donc le multinational qui possède l'industrie et plusieurs autres, ont décidé de fermer l'usine. Et évidemment, les travailleurs sont fâchés et le syndicat tout autant. Dès le début du film, on entre dans ce monde-là du syndicalisme et des droits des travailleurs. On le vit de l'intérieur comme si on était justement du point de vue syndical. Rien dans le film n'est théâtral. Rien n'a l'air romancé d'aucune façon. On a parfois l'impression d'être même le témoin privilégié de toute l'attente qui peut être vraiment interminable de ce genre de conflit-là. Il y a des gens qui, veut pas, ont perdu, sont sur le point de perdre leur emploi. Il y a l'instinct de survie des travailleurs qui s'inquiètent de leur futur et les conflits deviennent de plus en plus violents, en tout cas de plus en plus intenses. Certains n'ont plus rien à perdre. Le conflit dégénère rapidement avec le déroulement du film. Et tous les inconvénients liés à ça apparaissent et sont visibles pour le spectateur de ce film-là. Donc, dans le film En guerre, il n'y a, comme je l'ai dit, rien de romancé, rien d'embelli, rien d'une fiction, en fait, à part que l'histoire elle-même est une fiction. On a réellement l'impression d'être dans un reportage ou dans un documentaire réalité. On sent qu'on est dans un documentaire choc, en fait. On sent que c'est comme si une caméra s'était infiltrée dans la vie de ces travailleurs-là, de ces représentants syndicaux-là, qui défendent les libertés de leurs membres. Ça peut surprendre parce que c'est quand même assez inhabituel par traitement. Même la bande-annonce qui le rend plutôt bien, ça demeure encore plus intense quand on regarde le film. Des longs moments même, des fois, où il n'y a plus de paroles, il n'y a plus de musique. Il n'y a que de la musique, plutôt, très, très forte. La musique qu'on entendait, là, qui est un peu dissonante, qui est un peu stridente. Et on voit des gestes, des gens manifestés, des gens qui bravent le froid, qui bravent le temps, qui sont fatigués. On réussit vraiment à vivre ce conflit-là dans une dimension assez inimaginable pour le cinéma. Vincent Lindon, au niveau du jeu, évidemment, est absolument remarquable dans ce rôle-là, qui lui convient drôlement mieux que celui du sculpteur Rodin dans un de ses derniers films. Et franchement, c'est tellement fort, je dirais que Vincent Lindon porte le film carrément sur ses épaules de manière magnifique. Ça n'enlève rien aux autres acteurs qui sont très bons aussi, mais je pense qu'il porte le film tout seul. La musique, donc, stridente, comme je disais, on a ces longs moments sans dialogue avec cette musique-là qui vient vraiment faire ressortir le conflit, l'attente interminable que vivent les travailleurs. L'intensité du film qui augmente exponentiellement avec un parfum d'injustice qui est assez fort et qui croît. J'ai pas grand-chose de négatif à dire sur ce film-là. Je dirais, je donne un 8.5 sur 10. Il y a un facteur qui remue dans ce film-là, donc c'est un film choc. C'est un film, quand on sort, on se sent pas bien. Je pense que ceux qui ont les droits du travail à cœur vont trouver ça extrêmement difficile à voir, surtout moralement. Mais je pense que c'est aussi probablement le récit le plus réaliste de ce qu'est un conflit de travail poussé dans un état extrême. Cependant, c'est un peu long. C'est long parce que ça n'a pas le choix d'être long. Mm-hmm. Sinon, on perdrait cette espèce de rythme-là d'attente, ce rythme-là de sentir que les gens attendent. C'est le fait de s'ennuyer à certains moments augmente la compréhension de l'ennui des gens qui font partie des travailleurs ou des gens. Donc, tout est bien fait dans ce film-là. C'est pas un film que j'ai envie de revoir du tout. Mais 8.5 sur 10, donc un film que je recommande fortement.
Mais une fois.
Une fois, c'est oui. Ça. C'est franchement, c'est quelque chose. C'est quelque chose à voir.
Mais comme tu l'as dit, je pense que le mot-clé, c'est un film choc.
Oui, c'est un film carrément, choc. Carrément, oui. Voilà.
Merci beaucoup, Jim.
De rien.
C'est le moment du top 3.
Les feuilles mortes s'en viennent, les citrouilles, l'Halloween éventuellement, mais surtout les températures plus fraîches, la pluie, les sweaters et tout le fun de l'automne. On a donc décidé de faire notre top 3 des films d'automne. Et là, on a eu une petite discussion à savoir c'était quoi un film d'automne. C'est un film pour prendre ce relax parce que l'école recommence. C'est un film à écouter sous les couvertes, mais les fenêtres ouvertes. Oh, c'était pas clair, fait que moi j'ai décidé d'aller de mon bar, mais comme d'habitude, on va faire ça 3, 2, 1 chaque. Fait que Jim, ton top 3 des films d'automne, tu peux nous expliquer c'est quoi un film d'automne pour toi?
Oui, c'est ça. Moi, écoute, c'est très éclectique mon choix. J'ai choisi des films qui sont un peu mélancoliques, parce que pour moi l'automne c'est un peu mélancolique, c'est la fin de l'été, c'est le début de l'hiver, on sait qu'on va avoir froid, qu'il va falloir déglacer la voiture, déneiger l'entrée, bon, des choses pas le fun, l'école recommence, bon, des choses comme ça. Donc, j'ai choisi des films soit qui étaient un peu mélancoliques, soit qui faisaient réfléchir, soit des films que j'avais vraiment envie de voir en ce moment, qui sont apparus comme ça dans ma volonté. Donc, j'en ai déduit que c'était l'automne qui me proposait ses choix, Louis. Alors, mon numéro 3 des meilleurs films, en tout cas pour l'après-été ou le début de l'automne, en numéro 3, Amélie Poulain. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain avec Audrey Tautou. Ce film-là qui nous met dans une ambiance vraiment unique, avec des couleurs uniques, avec... Et
qui a inspiré l'esthétique d'une plotée de jeunes hipsters depuis que c'est sorti.
Effectivement. Et oui, et qui a effectivement inspiré beaucoup de films aussi. Et oui, un film majestueux, j'ai envie de dire, particulier, qui pourrait être ce qu'on appelle un feel-good movie, un film qui rend heureux, mais pas nécessairement. Ça peut être un film aussi un peu mélancolique par moment. C'est un film qui a un peu de tout dedans. Et juste pour les couleurs, je trouve que c'est un bon film pour l'automne.
Intéressant. Également le piano. Le piano
oui,
est le
musique bon. De Yann Tiersen, évidemment.
Définitivement.
Mélina, ton top 3...
Oui, moi, j'y suis allée avec La Société des poètes disparus, donc un film classique qui raconte l'histoire d'un professeur interprété par Robin Williams qui inspire ses étudiants par son enseignement de la poésie. Donc, pour moi, c'est un parfait film à revoir à l'automne parce que l'automne signifie la rentrée à l'école. Donc, voilà, ça se passe à l'école, c'est un film merveilleux, ça commence l'automne. Donc,
Mon capitaine.
Moi, tu vois, j'ai été plus vieux un petit peu. Moi, les films d'automne... Moi, après, l'été, c'est le film, c'est les films d'action, c'est les films de super-héros. C'est le moment où ce que on se lâche lousse. On lit la petite littérature cheap, les magazines, puis on se laisse un peu aller dans l'intellectualisme. l'automne, j'aime ça repartir en force. J'aime ça me donner un torticolis mental. J'aime ça m'imposer de réfléchir. Et dans mon top 3, dans le fond, on retrouve ma combinaison favorite, c'est-à-dire mon auteur favori et un des acteurs qui est pour moi iconique des films d'action des années 90. Donc, Total Recall, inspiré d'un livre de Philip K. Dick et dont le rôle principal est joué par Arnold Schwarzenegger.
On parle donc de la vieille version. J'avais peur que tu parles de la nouvelle version.
Non, on ne parle pas de la nouvelle version. On parle de la version de 1990. 2048, Doug Quaid rêve chaque nuit qu'il est sur la planète Mars à la recherche de la belle Mélina. Sa femme, Laurie, s'efforce de dissiper ce fantasme. Mais bref, Doug va à une espèce de truc de mémoire artificielle où on lui offre de vivre son rêve ultime. Il en choisit les paramètres. Et là, tout tourne au vinaigre et il se ramasse dans le rêve où c'est pas clair ou peut-être pas. Donc, tout le long du film, on est laissé à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un rêve. Ceux et celles qui l'ont vu vont savoir que la dernière scène et la première scène du laboratoire sont liées ensemble de manière intrinsèque et rajoutent à toute la confusion du film. C'est un style qui est très typique de Philip K. Dick, l'auteur du livre, mais qui est excessivement bien rendu malgré le fait que ce soit dirigé par le même type qui a dirigé le premier Robocop, mais qui a Arnold Schwarzenegger et Sharon Stone dans les acteurs, mais ça reste extraordinairement bon. Je recommande donc Total Recall, la version 90. Jim, top 2!
Oui, en deuxième position, donc un film qui, lui, en tout cas, faisait réfléchir pas mal, mais qui est pas si loin des super-héros jusqu'à un certain point. Birdman avec Michael Keaton, donc un film tourné en plan-séquence.
De plan-séquence.
Absolument, un film vraiment bizarre, on va se le dire.
Oh yeah.
Vraiment bizarre, mais un film qui, donc, de par son tournage, nous captive très vite. On reste vraiment dans le flow des scènes qui s'enchaînent. Et franchement, un film qui m'a beaucoup marqué, que j'ai vu en voyage. Ça a aussi fait en sorte que ça m'a marqué encore plus, mais c'est un film que je trouve est très à propos pour l'automne parce que justement, il rassemble ces différents éléments-là de retour en force de l'intellectualisme, si on veut, dans le sens où là, on doit réfléchir, mais on doit aussi prendre une certaine décision sur la réalité parce que ce film-là nous amuse ou s'amuse avec notre conscience à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai là-dedans durant un certain temps.
Mais tu as Michael Keaton, moi je dois souligner trois fois le travail d'Emma Stone. C'est la première fois que je la voyais vraiment se donner autant dans un film, quelque chose de vraiment intéressant. J'ai adoré sa performance dans Birdman. Mélina, ton deuxième top, ton top 2, ton numéro 2.
Donc mon numéro 2, en fait, pour moi, un film d'automne, donc c'est un film, on le dit, avec des couvertes, qui s'écoute sous une couverte, mais également avec un breuvage chaud à proximité. Donc j'ai pensé aux tasses de thé fumantes, aux couvertures, à la météo qui nous lance de la pluie. Et donc évidemment, hein, j'ai pensé à l'Angleterre. J'ai pensé à l'Angleterre, j'ai pensé à Keira Knightley et j'ai pensé à tous ces merveilleux films qu'elle a fait. Donc, que j'ai mis au numéro 2, Orgueil et préjugés, parce que c'est un classique. Mais en fait, tous les films inspirés des romans de Jane Austen qui se passent justement en Angleterre au 19e siècle, je pense que c'est vraiment des bons films à écouter sous une couverte avec une tasse de thé chaud très réconfortante.
On n'est pas rendu au chocolat chaud avec des guimauves, là.
Non, c'est ça. Bon, c'est vraiment la tasse de thé. On peut faire un thé latté, mais j'irai pas...
pas voilà. De guimauves pour l'instant. Bon, d'accord.
Non, les guimauves commencent seulement le 1er novembre à la Toussaint.
D'accord.
Il y a des dates pour ces choses-là, Jim. Suis un peu. Ma suite, un peu moins de confusion sur la réalité, un peu plus de confusion sur la morale. Film des années 2000, mettant en vedette, entre autres, Willem Dafoe, Jared Leto, Christian Bale et Reese Witherspoon. Je parle de American Psycho, le film... encore une fois, un film tiré d'un livre, cette fois-ci de Bret Easton Ellis. Le livre est du même titre. C'est Patrick Bateman qui est un espèce de yuppie extraordinaire qui est à la tête, qui est un associé dans une agence de publicité. Il est jeune, il est riche, il est un golden boy qui triomphe à la bourse. Tout doit être parfait pour lui. Sa carte d'affaires, sa cravate, ses vêtements. Mais ses relations avec la réalité, la morale et le meurtre sont un peu questionnables. Un film qui ne laisse pas insensible.
Oui.
Non?
Oui.
OK.
C'est mon tour.
Oui.
Mon numéro 1, ma première position des meilleurs films pour la fin d'été et l'automne. J'ai un petit peu triché sur celle-là. J'ai été vraiment chercher mon film favori, donc Cloud Atlas.
Ah.
Je sais. J'ai pas pu y résister. C'est un film que j'ai envie de voir depuis plusieurs mois, que je me retiens pour faire écouter ça à des gens que je ne nommerai pas. Louis. Ce film...
j'ai rien à dire.
Donc, une pléthore d'acteurs connus là-dedans, dont entre autres Tom Hanks. Il y a, un travail formidable dans la façon dont on a adapté ce roman-là de David Mitchell, qui porte le même nom, donc La cartographie des nuages, ou Cloud Atlas. Donc oui, c'est vraiment un film exceptionnel qui fait un traitement extraordinaire du roman de David Mitchell, La cartographie des nuages. C'est, une des rares fois où le film est meilleur que le livre, et le livre est très bon. C'est simplement qu'on réussit maintenant à faire le pont entre les différentes histoires qui sont dans ce film-là d'une façon vraiment unique, qui donne vraiment... Il y a un ajout scénaristique important au niveau du scénario du film qui a été finalement fait en collaboration avec David Mitchell, d'éléments qui n'étaient pas dans le livre, mais qui sont tout aussi cohérents. Donc, on n'est pas dans une adaptation un peu boboche, simpliste, pour faciliter la tâche. Je dirais même que s'il y a quelque chose, ça complexifie un peu même les choses. C'est un film que la plupart des gens avec qui j'ai vu ce film-là ou qui l'ont vu sans moi m'ont dit « j'ai pas tout compris, j'ai besoin de le revoir pour bien comprendre ». Et à chaque fois que je revois ce film-là, je comprends des nouvelles choses. Donc, c'est un film merveilleux, Cloud Atlas, que je recommande, et c'est, je pense, un bon film pour cette période-ci de l'année parce que ça fait quand même réfléchir sur des thèmes importants, des thèmes sociologiques, des thèmes moraux, mais aussi parce que c'est un divertissement extraordinaire. Donc, Cloud Atlas avec Tom Hanks et toute la ribambelle de petits amis.
Donc, Jim a encore réussi à plugger Cloud Atlas. Ben oui. Mélina.
Hey, moi, qu'est-ce que je vais réussir à plugger encore? Coup de théâtre, comme on dit par chez nous. Harry Potter et la pierre philosophale.
Ouais, finalement, on va laisser faire, on va skipper la fin.
Parce que, non mais quand même, il y a des raisons, hein? Parce que c'est le plus léger, selon moi, des Harry Potter. On découvre Poudlard, donc on découvre un univers, on découvre une école, donc l'automne, la rentrée des classes, Poudlard avec ses paysages enchanteurs, le lac, la forêt, etc. Donc je trouve que c'est la période de l'année, en fait, parfaite pour commencer... Mm-hmm. Pour recommencer.
La rentrée de l'école des sorciers.
Exactement. Donc, je conseille la pierre philosophale peut-être en septembre. Et on culmine avec le Harry Potter, le 7e, partie 1, partie 2, dans le temps des fêtes. Donc, je pense que ça...
C'est ta façon de... OK.
Oui, je pense que ça se présente bien pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, un ou deux films d'Harry Potter par mois, ça se prend toujours bien. Et je trouve que c'est vraiment le bon moment. Les feuilles qui tombent, ça me fait penser à Poudlard. Voilà.
Donc, moi, je ne vais pas plugger...
Rapide et dangereux.
Ah, je suis déçu.
Je vais, par contre, plugger mon réalisateur favori, Monsieur Villeneuve, Denis Villeneuve. C'est le film qui m'a donné l'idée de faire ça sur le mode La Confusion. Je parle ici de son film de 2014 qui s'appelle Ennemi, mettant en vedette Jake Gyllenhaal. C'est un professeur d'histoire de Toronto qui s'ennuie, a une vie plate. Sa femme est le fun, mais c'est pas, il se passe rien. À un moment donné, il regarde un film qu'un de ses chums lui a passé, puis il y a un acteur qui lui ressemble. Mais pas lui ressemble. C'est son double. Il essaye de savoir qu'est-ce qui se passe. Il essaie de le rencontrer. Quand il réalise qu'ils sont à peu près la même personne, l'histoire sort des rails et on a une espèce de thriller suspense psychologique étrange à la limite de l'ésotérique, mais qui te laisse toujours au bout de ta chaise. Arachnophobe, soyez avertis, c'est pas pour vous.
On l'écoutera pas, Jim.
Par contre, pour tous ceux qui aiment le cinéma, justement, qui te force à penser un peu plus loin que le confort de tes céréales, c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine. Le style de Denis Villeneuve est extraordinaire. J'ai eu la chance de voir ce film-là en salle. Et les contrastes de scènes très sombres de nuit et de scènes très clair de jour avec le skyline de Toronto en background, avec le soleil qui se lève. Ça en faisait mal aux yeux de contraste, mais c'était très intéressant, c'était super bien fait. Je recommande à tous ce film-là. Par contre, soyez avertis, Il donne un bon mal de tête après l'1h45 du film.
Louis, tu parlais en fait du confort de nos céréales. Moi, ouais. Je voulais juste dire à nos auditeurs que j'avais trouvé une façon de manger mes céréales dans tout le confort, parce qu'on s'entend que le confort des céréales, c'est d'avoir le bon... qui reste croquante malgré le lait, parce que si on les laisse trop longtemps, ça devient trop mou. Donc...
Okay. Hey, je m'excuse, mais là, je pense qu'on... Hey,
Ce que je voulais dire, c'est que...
On perd... je pense que ça marche plus. OK, donc, mention spéciale, là,
Oui, mention spéciale. De mon côté, ça aurait même pu être dans le top 3, simplement. Bon, j'ai pas fait d'ordre vraiment avec tout ça. Black Swan de Darren Aronofsky avec Natalie Portman, dont il y a d'ailleurs des scènes plutôt croustillantes. Film vraiment, vraiment troublant.
Croustillante avec des céréales ou...
Avec Mila Kunis.
Super bon film. Film, encore là, qui a toutes les caractéristiques nécessaires pour l'automne. Troublant, qui fait réfléchir. peut-être pas mélancolique, mais en tout cas... C'est assez particulier. Ben, je recommande ce film-là aussi. Voilà.
Pour les couvertes. Mais non, est-ce que tu as une mention spéciale?
Oui, j'ai une mention spéciale, en fait. Mais avant, j'aimerais juste terminer mon histoire. Donc, l'idée, c'est de mettre les céréales d'un...
Mina vient donc de perdre son droit de mentionner ses mentions spéciales. C'était donc la fin du top 3.
C'est le moment des sorties cinéma.
Je suis sorti
avec... On est donc rendu au moment... de l'épisode où je vous fais les sorties. Là, je vous explique. Jusqu'à présent, je mettais les sorties qui s'en venaient le jeudi suivant. Ça devenait long, c'était compliqué parce que c'était quand même loin. Je profite de notre retour de vacances pour recommencer et changer la formule. Je vais donc donner les sorties de films qui sont sorties hier.
C'est une très bonne idée, Louis.
Ouais. Fait que ça va être plus facile comme ça, ça va me permettre d'être plus à jour, mais on va pouvoir se choisir nos films là, au fur et à mesure.
Excellente idée.
Donc, pour commencer, qui est donc sorti hier, La librairie de Mademoiselle Green, version en français, version originale, c'est The Bookshop. Angleterre, 1959, Florence Green, nouvellement arrivée dans la petite ville endormie de Hardoborough, risque tout ce qu'elle a pour ouvrir une librairie, suscitant contestation et jalousie. Elle lutte pour s'établir, mais en exposant la population locale à la meilleure littérature de l'époque, elle provoque un réveil culturel sans précédent dans toute la ville. Adapté du roman de Penelope Fitzgerald, lauréat du Booker Prize.
Ça pourrait devenir un film d'automne intéressant.
Oui, sa mère va être Amy Mortimer et Bill Nighy. On a également Mandy, version originale en anglais. Il n'a pas été traduit. C'est un film d'horreur américain. Pacific Northwest, 1983. Red Miller et Mandy Bloom mènent une existence paisible et empreinte d'amour quand leur refuge entouré de pinèdes est sauvagement détruit par les membres d'une secte dirigée par le sadique Jeremy Sand. Red est catapulté dans un voyage fantasmagorique marqué par la vengeance, le sang et le feu. Sa mère vedette, nul autre que Nicolas Cage, Andrea Riseborough et Bill Duke.
Ce serait une bonne critique commune, ça.
Ça va être à voir vraiment beaucoup, ça. Ça va être à considérer. On a également le Prédateur, version française, de The Predator, film d'horreur. Là, je sais pas
si... C'est un rapport avec Predator, la vieille série de films, ou pas du tout?
Oui. Oh oui, c'est une réinvention de la série Prédateur de Shane Black. C'est vraiment la même chose. Cette fois-ci, Sam Vedette, Olivia Munn, Ivan Stravinsky, Jacob Tremblay.
Jacob Tremblay, ça sonne très québécois, ça.
Oui, mais c'est
Jacob Tremblay, en fait, mais
c'est,
oui.
C'est le petit garçon qui jouait, vous savez, le film que j'avais vu avec Julia Roberts, Owen Wilson, et le petit garçon qui était atteint d'une déformation.
Ah oui, oui, oui. Ah, oui il était lui. Bon, ça.
Oh oui, il était excellent dans ce film-là, en fait, mais il n'est pas du tout québécois.
Ben, probablement d'origine, là, entendons-nous, sa famille, il y a longtemps.
Poursuivez.
Qu'est-ce qu'on attend? C'est un documentaire français, Le petit village au Calvins. Dunkersheim, en France, est en transition. Dans le but de protéger l'environnement et les générations futures, la population a adopté un mode de vie qui vise à réduire l'utilisation du pétrole et les émissions de gaz à effet de serre. L'engagement de toute la communauté est primordial alors que les citoyens mettent en pratique cette nouvelle philosophie. Celle-ci se concrétise entre autres par la transformation des terres agricoles avoisinantes dans un souci d'autonomie agroalimentaire, l'utilisation de matériaux de construction écologique et la création d'une monnaie locale parallèle.
Eh bien.
Écoute, des bitcoins pour les paysans français.
Voilà.
L'ultime voyage, version originale en espagnol de Last Suit. Abraham Bernstein, un tailleur juif de 88 ans, parvient à échapper à sa famille qui veut le placer dans une résidence pour personnes âgées. Il quitte alors Buenos Aires pour la Pologne avec la volonté de retrouver l'homme qui l'a sauvé d'une mort certaine à Auschwitz. Après plus de 7 décennies, Abraham veut renouer avec son vieil ami et remplir la promesse qu'il lui a faite un jour. celle de revenir le voir pour lui dire tout au sujet de la vie palpitante qu'il a pu vivre grâce à son courage. The Children Act, drame britannique. À mesure que son mariage s'effondre, une juge doit statuer sur une affaire impliquant un adolescent qui refuse une transfusion sanguine à cause de ses allégeances religieuses. Il met en vedette Emma Thompson et Ben Chaplin. Une petite faveur, version originale de A Simple Favor. J'ai vu la bande-annonce de ça.
Oui.
Et ça a l'air stressant.
Oui.
À un niveau dur à imaginer.
Oui, c'est la bande-annonce que la chanson de Cœur de pirate, en fait, dedans.
Oui, oui, effectivement.
J'ai vraiment envie de voir le film aussi.
Dans une petite ville des États-Unis, la meilleure amie d'une blogueuse disparaît mystérieusement. Sa mamanette Blake Lively et la très jolie Anna Kendrick. C'était ça pour les sorties d'hier.
Bien, c'est bien.
Oui, c'était une bonne... bonne quantité. Oui, il y a du stock vraiment intéressant là-dedans. Ça va être dur de choisir. Qu'est-ce qu'on fait? C'était donc la fin de cet épisode de Cinébrunch. Je vous souhaite à tous et à toutes une extraordinaire semaine, un très délicieux popcorn et un cinéma inégalé.
C'est donc... D'ailleurs, en parlant de délicieux popcorn, Louis, oui. Il y a une technique qui consiste à mettre du lait dans ton popcorn, mais de tasser le popcorn d'un bord.
C'est sur ça que je vais déclarer la fin de l'épisode à tout jamais.